un texte hyper connu, connu de tous, connu même des gens qui ne sont pas croyants, versets 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère, Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. J'avais jamais remarqué, mais le personnage principal du texte que nous venons de lire, c'est Caïn et pas Abel. Bizarre, hein, c'est Caïn le pécheur qui est vraiment le personnage principal, et Abel le juste, finalement, c'est le personnage secondaire. Alors j'ai pris un petit extrait d'un livre. Nous ne savons pas beaucoup en réalité sur ces deux frères. Nous ne savons même pas avec certitude s'il s'agit des deux premiers enfants d'Adam et Ève. C'est une interprétation largement répandue, mais le texte ne le dit pas précisément. Il est très difficile et risqué dans les récits de l'Ancien Testament de supposer que certains événements n'aient pas eu lieu, comme la naissance d'enfants avant Caïn et Abel. Ce qui expliquerait après pourquoi Caïn dit « protège-moi des autres ». Simplement parce qu'ils ne sont pas relatés dans le texte. C'est imputé à des récits orientaux et anciens de caractéristiques qui se trouvent dans les écrits indo-européens modernes, comme le fait de tout écrire en ordre chronologique et le souci d'être complet dans les détails, même s'il n'affecte pas spécialement le récit qu'on veut mettre en valeur. Les textes anciens ne sont pas les mêmes que les textes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une façon d'écrire les textes qui n'était pas les mêmes il y a, je ne sais plus combien d'années, ou en tout cas. Et il est possible que Adam et Ève aient eu des enfants avant et beaucoup plus après. Voilà. En fait, on ne sait pas beaucoup de choses sur le récit, mais on sait ce que Dieu voulait qu'on sache pour ce récit. Et le texte nous dit que Caïn est cultivateur, et il nous dit qu'il a fait une offrande à Dieu, et que cette offrande qu'il a faite à Dieu n'a pas été acceptée. Alors, bien nombre de commentateurs disent que Dieu a refusé l'offrande de Caïn uniquement parce que ce n'était pas une offrande animale. C'est ce qu'on retrouve largement dans les commentaires. Dieu n'a pas pris l'offrande de Caïn parce que finalement ce n'était pas une offrande animale, c'était une offrande végétale, du coup ça le va. Mais depuis que j'ai lu le petit livre, je ne suis plus d'accord avec cette interprétation pour deux choses que le livre évoque. Déjà, Dieu ne peut pas reprocher à Caïn de ne pas suivre un rite qui a été écrit plusieurs milliers d'années après lui. Deuxièmement, si on regarde Lévitique, eh bien, on se rend compte que dans Lévitique, il y a des offrandes végétales. Et notamment, j'ai oublié le chapitre. Ça m'arrive d'oublier le chapitre. C'est le verset, mais j'ai plus le chapitre, mais je l'ai écrit. Il l'apporta au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc même les offrandes végétales sont agréables pour Dieu. Donc ce n'est pas à cause que Cain a fait une offrande végétale que son offrande a été refusée. Alors maintenant, il faut savoir pourquoi ça a été refusé. Donc je vous dis, voilà, dernièrement, j'ai lu ce livre, « L'homme, le mal et la pensée de Dieu » de David Schutt, et il disait justement que si l'offrande de Cain n'avait pas été acceptée, ce n'était pas à cause de son contenu, mais de la façon qu'il l'avait fait. En lisant le texte de Genèse 4, nous voyons un peu plus qui est Cain. Premièrement, Cain est irrité que Dieu a refusé son offrande, puis quand Dieu lui parle, il ne fait pas ce que Dieu lui demande, parce que Dieu lui dit « mais arrête, fais attention, le péché est devant toi ». Non, il s'en fout, finalement, il continue. Et une fois qu'il a tué, son frère, est-ce qu'il met des regrets? Est-ce qu'il dit à Dieu, mais je te demande pardon d'avoir tué mon frère Abel, j'aurais pas dû le tuer? Est-ce qu'il dit ça? Non, il pense qu'à lui, et il dit, mais alors, qu'est-ce que je vais devenir, moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Il vient de tuer Abel, son frère, aucun regret, mais par contre, moi, ma protection, qu'est-ce que je vais devenir dans ma protection à moi? Et là, on voit un peu plus qui est Cain. Ce qui le contrarie, hein, ce n'est pas d'être loin de la présence de Dieu. C'est pas ça qui le contrarie, pardon. C'est sa propre protection. Alors, qui est Dieu pour lui? Dans quelle attitude Cain avait-il fait cette offrande? Tous ces éléments nous laissent penser que l'objectif de Cain était de faire une offrande à Dieu afin d'avoir en retour quelque chose, et ce quelque chose, c'est sûrement la protection de Dieu. Comme dans toute religion, finalement, les religions, souvent, c'est « je vais faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Je vais être quelqu'un de bon, comme ça je vais mériter le paradis. » Voilà la religion. Mais voilà ce que nous dit la Bible. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu, il ne regarde pas la quantité que Cain a mis sur l'autel. Il ne regarde pas au sacrifice qu'il a fait, entre guillemets, pour obtenir quelque chose, mais il regarde le cœur de Cain, il regarde le cœur d'Abel. Dans quelles conditions il est en train de faire cette offrande? Dans quel état d'esprit il est? Et si nous apportons une offrande à Dieu avec un mauvais cœur, donc de mauvaises pensées, cela ne sert à rien. Le psaume 51:17 nous dit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit, pas un cœur orgueilleux. Pas un cœur qui dit ah, « voilà, regarde Seigneur tout ce que je t'ai apporté. T'as vu tout ce que je t'apporte? Là, tu peux me donner quelque chose. Là, je le mérite. Là, je te fais une offrande, quoi. » Pour finir sur Cain, je dirais que Cain croit que Dieu existe, mais il n'a pas envie de le suivre. Ce qu'il veut, lui, c'est un Dieu qui le protège sans qu'il lui dise quoi faire. Cain ne veut pas de relation avec Dieu, mais il veut une religion qui lui octroie des privilèges en fonction de ce qu'il fait. La différence entre une relation avec Dieu et une religion avec Dieu. La relation avec Dieu, c'est je prends du temps avec lui, je prends plaisir d'être en sa présence. Et la religion, eh bien, finalement, c'est voilà, je veux quelque chose, je vais donner quelque chose en retour. Il n'y a pas cette relation personnelle. Ce récit est pour nous une mise en garde. Il ne suffit pas de croire que Dieu existe pour être au bénéfice de ses bénédictions. Il ne suffit pas non plus de croire que Jésus est mort sur une croix pour nous, pour être sauvés. Alors, ça peut vous choquer, hein, mais il ne suffit pas de croire ça. Il faut le croire, l'accepter et suivre ses commandements. Et loin de moi l'idée de vous dire que l'on est sauvé par ses œuvres. Et ce que je veux dire quand je dis qu'il faut suivre ses commandements, c'est qu'il faut laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Le laisser faire son œuvre en nous. Même si ça nous bouscule, même si on n'a pas trop envie. Voilà, on le laisse bousculer en nous et puis voilà, le laisser progressivement nous transformer pour faire ce que le Seigneur veut que nous fassions. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas nous donner une religion avec des critères pour avoir ses bénédictions. Non, Dieu veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous, et de cette relation vont découler les bénédictions. Je le répète, hein, le problème de Caïn, c'est qu'il ne voulait pas de relation profonde avec Dieu. Il n'en voulait pas. Car pour avoir une relation avec Dieu, il faut un renoncement à soi-même. Et cela, c'est pas facile. Alors j'allais dire pour tout le monde, mais c'est pas facile pour aucun d'entre nous finalement de renoncer à soi-même pour laisser Christ habiter en nous et laisser Christ dicter entre guillemets ce que nous devons faire ou pas. Et Matthieu 16, verset 24 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Un verset que je cite beaucoup dans mes prédications, et qui est vraiment dur. Hein. Dans toutes les églises du monde, il existe des gens qui viennent religieusement à l'église pour soulager leur conscience et leur peur de l'enfer. Et ça sert à rien. C'est pas parce qu'on va venir au culte dimanche matin que je vais aller au paradis, c'est pas parce que je vais donner 10%, 50% de mon argent à Dieu que j'aurai toutes les bénédictions du ciel. C'est vain. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas une religion, mais une relation. Pour être sauvé, je le répète, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et avoir le désir de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous, même si cela va à l'encontre de notre confort personnel. Alors bien sûr, notre salut ne dépend pas de notre degré d'obéissance au Saint-Esprit, parce que là on rentrerait dans des œuvres et ce n'est pas bon, mais à notre attitude de cœur envers lui. Dit autrement, Dieu nous connaît et il connaît la sincérité de notre cœur. Il existe des personnes qui, à cause des circonstances, ont beaucoup de mal à laisser le Saint-Esprit agir en eux. Et ça, le Seigneur le sait, il le comprend bien, et j'allais dire que ce n'est pas grave, mais il le sait. Et à l'inverse, il y a des gens qui utilisent les événements de la vie pour se donner des excuses de ne pas obéir au Saint-Esprit. Et là, ce n'est pas bon, et Caïn là en fait partie. Il profite du fait que Dieu ait refusé de prendre son offrande, finalement pour, allez, je désobéis au Saint-Esprit. Finalement, je suis la victime, Dieu n'a pas pris mon offrande, je suis la victime. Quelle merde. Voilà, donc c'est bon, je peux désobéir au Saint-Esprit parce que finalement, ça cause des circonstances. Ben, voilà, il faut vraiment voir la différence entre les deux. La différence entre, voilà, les circonstances font que j'ai vraiment du mal à faire ce que le Saint-Esprit veut pour ma vie, et ben, j'ai vu les circonstances, donc j'en profite, allez hop, je ne fais pas, j'annonce plus la parole de Dieu, c'est bon, je suis tranquille, je suis en France, vous vous rendez compte, si je vais dans les rues, les gens ils vont me regarder bizarrement, non, ça ne marche pas comme ça. Quoi. En fait, on ne peut pas tricher avec Dieu. Dieu connaît notre cœur. On ne peut pas manipuler Dieu. Dieu connaît la sincérité de notre cœur. Il faut être soi-même dans une relation où on abandonne tout. C'est hyper compliqué et je le vis moi-même. Hein. Je le vis moi-même quand je, voilà, ces derniers temps quand je vais dans la rue, etc. Et c'est puissant. Il faut laisser le Seigneur guider notre cœur. Et puis cette relation avec Dieu, elle est puissante. Hein. Il ne faut pas regarder d'un regard humain en se disant, ah ben voilà, ça va être dur. En fait, non, ça ne va pas être dur. Parce que le Saint-Esprit donne en nous la joie, la paix. C'est tout autre chose. Quoi. Il faut faire le pas. Il faut faire un pas de foi. Et le Seigneur fait le reste. Et on sera encore plus heureux qu'avant. D'un point de vue humain, on va se dire, ben non, si je fais la volonté du Seigneur, ça va être dur pour moi, mais en fait, pas du tout. C'est mettre une autre paire de lunettes et on voit les choses tout différemment, en fait. C'est extraordinaire. Et je ne sais plus où j'en suis dans mon texte. Alors, maintenant qu'on a parlé de Caïn, j'aimerais parler d'Abel. Ce texte nous parle peu de lui. Il nous dit qu'il est un berger, que son offrande a été approuvée par Dieu et que finalement il a été tué par son frère. Un autre texte du Nouveau Testament nous parle de lui en Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors, moi je trouve ça vraiment étrange. Car Dieu a aimé Abel. Abel a été juste devant les yeux de Dieu par rapport à Caïn. Et pourtant, c'est lequel qui meurt? Qui meurt le premier? C'est le juste, c'est Abel. Mais c'est étrange quand même. Hein. Et finalement, Caïn, lui qui cherchait des privilèges par son offrande à Dieu, il n'a rien compris parce que celui qui a eu une offrande agréable à Dieu, c'est lui qui est mort le premier. Ça m'a perturbé un peu. Alors, bien sûr, j'ai cherché à mieux comprendre ce texte. Caïn cherchait des privilèges en offrant une offrande à Dieu, mais l'offrande ne sert pas à avoir la protection de Dieu pour notre vie ici-bas. Et ce texte nous le rappelle. Je trouve vraiment ce texte déroutant car il va à l'encontre d'une pensée humaine sur la religion. Dieu n'a pas sauvé Abel de la main de son frère alors qu'il avait pu le faire. D'un point de vue humain, voilà, je le répète, on pourrait dire que c'est injuste, mais regardons les choses sous un autre angle. Durant sa vie, Abel a été heureux. Il a été heureux durant toute sa vie. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher aussi de penser à mon père qui est mort à l'âge de 68 ans. Et c'est pareil, toute sa vie, eh bien, il était heureux dans la présence de Dieu. Quant à Caïn, est-ce qu'on peut en dire autant? Du moment où il a tué son frère, il est sorti de cette relation avec Dieu et il a vécu dans la peur et la crainte. Il n'était plus du tout dans cette joie. Nous ne raisonnons plus comme des êtres humains ou européens où on se dit que finalement la réussite c'est la durée de notre vie. Et ce n'est pas ça la réussite. La réussite c'est qu'est-ce qu'on a fait de notre vie ici-bas, durant le temps qui nous était imparti, pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 80 ans, pour les plus chanceux, même 100 ans. Je pense à mon grand-père, il va faire ses 100 ans prochainement. Voilà, mais qu'est-ce qu'on a fait durant toutes ces années que Dieu nous a accordées? J'avais même le témoignage horrible d'un enfant, moins de 12 ans, qui est mort et qui a regardé ses parents et qui a dit « Mais ne pleurez pas, je vais dans les bras de Jésus ». Moi, je comprends pourquoi les parents pleuraient, mais cet enfant, lui, était dans les mains de Jésus et il était déjà dans la présence de Jésus. La présence de Dieu, la relation avec Dieu ne nous donne pas l'immortalité, ni la richesse, ni la gloire. Si on cherche une durée de vie longue, de la richesse et de la gloire, n'allez pas auprès de Dieu, c'est pas lui qui vous donnera tout ça. Pardon ?
Pas comme mon oncle.
Pas comme mon oncle, oui, mais d'une autre façon, quoi. Je vais sur les mots. Ce que Dieu nous donne dans sa présence, ce sont les fruits de l'esprit. Et je voulais répéter, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça qui nous est accordé par notre relation avec Dieu. Et ça, ces fruits d'esprit, ça nous donne une vie, mais extraordinaire. Même si elle est courte, elle sera extraordinaire. Qu'est-ce qu'une vie longue ? Moi, je pense à certaines personnes que je visitais dans les maisons de retraite qui ne pouvaient plus se lever, etc., qui poussent des cris et à me percer le cœur. Pour mieux vivre moins longtemps dans la présence de Dieu que longtemps sans la présence de Dieu. Alors, je dis rien par rapport à ceux qui sont dans les maisons de retraite, hein. C'est juste pour dire qu'est-ce qu'une longue vie, quoi. Ce que Dieu nous offre par sa relation avec lui, ce n'est pas une réussite par rapport aux autres, mais d'être bien dans son corps et dans sa vie, et cela, quelles que soient les circonstances. Quelles que soient les circonstances. Je pense encore à Jocelyne quand elle revenait de ses chignons et qu'elle avait le sourire et tout. C'est ça que nous donne le Seigneur. Il ne nous donne pas le fait d'échapper aux épreuves de la vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui j'ai donné 10 000 euros que je ne vais pas tomber malade. Non, je vais tomber malade, malheureusement, comme tout le monde, mais le Seigneur sera là et il me donnera tous ses fruits de l'esprit pour que je le vive en sa présence d'une façon différente. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, Jésus nous aime et ce qu'il veut pour chacun d'entre nous, ce n'est pas nous donner une religion pour que nous méritions certaines choses en fonction de ce que nous fassions. Mais il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Ne regardons pas les critères de réussite de ce monde, mais regardons à Dieu qui nous offre sa paix, sa joie et son amour par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Prions. Seigneur, ce texte me bouleverse, ce texte peut me contrarier. Seigneur, tu ne nous offres pas une religion, nous pouvons gagner des choses en fonction de ce que nous faisons, mais tu nous offres une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à nous humilier devant toi et à vivre cette relation avec toi dans l'humilité de notre cœur. Et béni sois-tu, Seigneur, parce que de cette relation avec toi vont découler des bénédictions sans nombre. Béni sois-tu, Seigneur. Amen.
Amen.
J'ai choisi ce chant, « Mon Dieu, plus près de toi ».